Vous écoutez le Libre Journal des collectionneurs dirigé par Nicolas Tikhobrazov, assisté de Catherine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 22 juillet 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Allô, bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Sandrine, comment vas-tu, ça va?
Mais très très bien, eh bien l'émission est à vous.
Merci. Chers auditeurs, bonjour. Oui, j'ai un peu perdu ma voix, mais enfin c'est pas grave. L'essentiel c'est que je puisse vous dire un petit peu ce que je pense de la situation actuelle, ce coup de gueule. Quand je pense que c'est inadmissible de la part de EMA et de fait du gouvernement français de ne pas reconnaître le vaccin russe, empêchant ainsi la venue de nombreux artistes russes qui étaient prévus pour animer des festivals en France, où se niche désormais la russophobie jusque dans la culture. Oh là 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 là, la culture, l'évasion de l'esprit, le rêve, la connaissance d'autrui. Oh, quand je pense que certains projets étaient prévus depuis de nombreux mois, pour ne pas dire d'années, les voyages, les hôtels payés, les billets d'avion, ainsi que les locations de salles. C'est une perte sèche, une faillite au vu pour beaucoup d'organisations. Je pense au festival d'Avignon, où des troupes devaient venir. Mais enfin, et Micron, bâton premier, qui a annoncé le durcissement du durcissage, de la durcissation, du durcissationnissage de durcissitude, des mesures anti-Covid. Moi, j'ai rien compris. On comprend qu'une seule chose. Le peuple français est un pantin. Et après nous avoir infantilisés, on culpabilise les anti-vaccins qui ont, pour une majorité, une bonne majorité, des raisons valables. Car la censure de la presse interdit de dire le nombre exact des victimes du vaccin. Le nombre de paralysies faciales, de boules curieuses de la taille d'une balle de ping-pong après la piqûre, des grippes bizarres, des problèmes cérébraux, de vascularisation après les vaccins qui sont expérimentaux. Et le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, CJ, a déclaré « On souhaite que les vaccins qui sont reconnus en France soient uniquement les quatre qui sont validés. » Ce n'est pas une question de politique, c'est une question scientifique. Par notre Agence européenne des médicaments communs, l'immense majorité des pays européens, il n'y en a que trois qui font différemment, reconnaît uniquement ces quatre vaccins, et c'est le cas de la France. Mais il semble oublier les performances réelles d'AstraZeneca. On dirait de la margarine. Astra, et sa suspension dans de nombreux pays. Pourtant, vaccin reconnu par l'éminente EMA, avec les trois autres, tous issus de laboratoires américains. Je rappelle quand même que le vaccin russe Sputnik est déjà utilisé dans 40 pays, parmi lesquels un tout petit pays qui s'appelle la Russie. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas qui y habitent. Le Mexique, l'Argentine, l'Inde est actuellement utilisé par deux pays au sein de l'Union européenne, la Slovaquie et la Hongrie. Et alors la diplomatie russe a regretté qu'il ne s'agit pas ici de l'opinion personnelle d'un amateur, mais la position officielle politique du pays qu'est la France. Or ce vaccin est hautement protecteur contre les nouvelles variantes du Covid-19, déclaration faite après une étude du service de recherche du Gamaleya Center, publié dans Vaccines, une revue internationale de premier plan, démontrant que le Sputnik V produit des titres neutralisants comme des souches nouvellement détectées. bientôt, nous serons avec l'obligation d'être pucés pour savoir tout sur vous, comme des animaux. Et surtout de vous autoriser à faire des courses, boire un café en terrasse, d'aller au cinéma. Donc, il y avait le télétravail, et bien vous aurez maintenant le télévacances. On va devenir des humanoïdes robotisés avec un numéro, sans prénom, sans nom, asexués, voire avec une tache rouge. Vous savez, ou un tatouage sur l'épaule, comme il y avait certaines péripétitiennes à une certaine époque, ou au milieu du front, indiquant la tare qui n'est, que vous n'êtes pas comme tous les autres, les non-vaccinés. Chers amis et auditeurs invisibles, j'ai très peur de vivre encore ce que l'on vit, et surtout ce que l'on va vivre. Si un changement radical ne survient pas dans notre pays, ce monde, oh mon Dieu, je ne me reconnais plus. Et alors malgré l'arrêt Salvetti 2002 qui déclare « aucun traitement médical n'est obligatoire au sein de l'Union européenne », le Code civil français, l'article 16.1, « chacun a le droit au respect de son corps, le corps est inviolable », l'article 731 de s'assurer de la citoyenneté des citoyens sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. L'article 732 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir à être vacciné. Et Macron, en despote absolument, balaye tout cela d'un revers de main pour ordonner, imposer son diktat de chef suprême. Non, moi je ne me tais pas en voulant pas être un collabo du système qui n'entend rien et qui fait celui qui voit rien. Une partie du personnel soignant démissionne à l'annonce du chantage au travail. Si vous n'êtes pas vacciné, vous pourrez travailler, mais ne pas être payé. Mon Dieu, mais où va-t-on ? Alors, qui va vous soigner s'il n'y a plus de personnel soignant ? La France est devenue un pays non plus bananier, mais sous-développé. Les médecins qui en retraite ne sont pas remplacés. On est obligé de faire appel à des médecins étrangers venant de Roumanie, d'Italie, de Pologne, du Pérou. Avec quel diplôme, quelle équivalence ? Et on refuse d'utiliser des médicaments, des vaccins qui, eux, ont fait leurs preuves. Nous sommes arrivés à un point de non-retour possible. Oh, je ne suis pas pessimiste, mais clairvoyant. Rendez-vous compte que vous ne pouvez plus aller voir pour dire au revoir à un proche mourant sur un lit d'hôpital. On lui interdit même un dernier regard sur sa famille. Même les animaux font leur deuil sur leurs congénères, décédés, écrasés par une voiture. Nous sommes considérés comme moins que des bêtes, des objets inanimés, des choses. Par contre, la Terre, elle se venge. Elle est en pleine révolution, avec toutes ces catastrophes, ces cataplysmes, ces tornades, ces pluies diluviennes. Préparons un nouvel arche de Noé. Oh, certains l'ont compris, suivez mon regard, mais eux, ils ont les moyens, pas nous. Et la Terre devient une bombe, car réfléchissez bien, on enfouit les déchets atomiques et autres cochonneries, pour ne pas employer un autre terme. Je pense au CO2 qui est libéré dans les airs de certaines usines. Eh bien, on transporte ce CO2 pour le stocker sous cloche, après transformation, dans les fonds marins. C'est une bombe en sommeil pour le moment, mais pour combien de temps ? Et on oublie que la Terre vient de tourner, que le pôle magnétique a changé de place. Preuve en est, un sous-marin, il est venu au pôle Nord, enfin il croyait y être, et il s'est trouvé à 400 km du pôle magnétique. Mon Dieu ! Et le Soleil, avec toutes ses éruptions magnétiques qui interviennent et qui viennent sur Terre, qui arrivent jusque sur la Terre pour endommager nos satellites. Et je ne parle pas des tressaillements de la Lune actuellement. Enfin bon, mais ça, on dit, c'est le réchauffement. Bon, après mon coup de gueule médiatico-brassofien, je passe la parole à Catherine. Le choix de cette émission qu'elle va vous présenter, de nos invités, et dans la continuité d'un peu de mon coup de gueule avec un espoir. une solution. J'espère que vous ne serez pas choqués par nos invités, mais interpellés. Allez, je vous laisse à votre libre arbitre, je passe la parole à Catherine.
Bonjour à tous nos auditeurs, ceux qui sont en vacances et ceux qui les attendent avec impatience. Nous avons aujourd'hui deux femmes extraordinaires, Myriam Belmire, présidente du CERO France et informaticienne, qui va nous parler des rencontres extraterrestres, et Isabelle de Cauchecourt, vice-présidente du même CERO France, qui est psychologue et hypnothérapeute et qui nous parlera de rencontres extraterrestres, des expérienceurs français qui parlent et d'hypnothérapie.
Et plus spécialement de l'ouvrage qu'ils viennent d'écrire et qui va sortir dans quelques jours. Après le CIA, c'est au tour de la Royal Air Force anglaise d'annoncer la déclassification de dossiers confidentiels concernant les ovnis. Il faut dire qu'entre 1950 et 2009, il n'y a pas si longtemps, l'armée de l'air britannique avait une section entièrement dédiée au signalement d'objets volants non identifiés. La sélection spécialisée au signalement des petits hommes verts, des aliens, on appelait aussi ça des petits gris, pas confondre avec les escargots de Bourgogne, a cessé ses activités quand elle a finalement conclu que finalement aucun des signalements n'était dangereux pour la Grande-Bretagne. Il aura fallu 59 ans pour se décider. Mais enfin, il y a quand même deux possibilités, soit celle que nous sommes seuls dans l'espace, soit celle que nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. C'est un peu le pari Pascal. Sachant qu'il y a des milliards d'exoplanètes, il y a forcément de la vie ailleurs, c'est sûr. Ce n'est pas une question d'y croire ou pas, c'est une réalité. Le projet SIN, qui a été créé en 47, rebaptisé en 49 Grudge, en 52, après une avalanche de témoignages, Blue Book, puis le SETI en 60 en France. La France n'est pas en reste. En 77, elle a créé le GEPON, remplacé en 88 par le CEPRA. En 2005, le CEPRA a été rebaptisé GEPON, mais avec un I supplémentaire, voulant insister sur la fonction dorénavant informative. Le programme SETI est né aux États-Unis dans les années 60. SETI regroupe plusieurs projets et la question des abductions a émergé aux États-Unis. Celle-ci a pris du poids suite au livre publié en 1998 par le psychiatre John Mack, professeur à la prestigieuse Harvard Medical School. Jean-Pierre Petit, que nous avons invité il y a quelques mois, déclare en préface dans cet ouvrage que viennent d'écrire Myriam Belmire, Isabelle de Cauchecourt et avec le partenariat d'autres personnes, déclare que cet ouvrage montre que de tels événements se sont également produits en France et dans d'autres pays du monde. J'ai fait des recherches, effectivement, il y a même en Russie, en Chine. Et je tiens à remercier nos invités d'aujourd'hui de nous parler de ces événements extraterrestres. Chère Myriam Belmire, êtes-vous des nôtres ?
Oui, oui, je suis là et bonjour à vous, Nicolas, et bonjour à tous les auditeurs qui vont peut-être, pour certains, être surpris de ce qu'ils vont entendre.
Absolument. Chère Myriam Belmire, comment avez-vous eu l'idée de créer d'abord le CERO France, puisque vous êtes la présidente de CERO, et je préside, CERO France? Pourquoi avoir créé cette association?
Eh bien, j'ai été moi-même, je dirais, l'objet de contacts rapprochés avec des êtres dits extraterrestres. Alors, ça va peut-être choquer certains qui écoutent, mais c'est un phénomène qui existe depuis assez longtemps aux États-Unis, mais en France, nous avons des gens qui, depuis longtemps aussi, j'ai des expériences, se sont tues. Moi-même, je ne parlais pas de ce qui m'est arrivé. Et à un moment donné, il y a eu, dans les années 2010-2012, enfin surtout 2010, j'ai rencontré d'autres personnes. On a commencé à vraiment parler de ce phénomène entre nous. Je ne pensais pas du tout moi-même avoir vécu ça. Je m'intéresse aux phénomènes, enfin disons aux étoiles, à l'observation du ciel, puisque j'étais informaticienne, donc ingénieure en informatique pendant des années, ensuite et passionnée par les étoiles, donc je disais. Et j'ai été 10 ans dans un club d'astronomes amateurs, donc j'observe bien le ciel quand même. J'ai été témoin d'OVNI moi-même, mais il a fallu que je fasse une introspection personnelle pour me rendre compte que j'avais vécu effectivement des abductions, c'est le terme qui est dit aux États-Unis, c'est-à-dire enlèvement et retour par des êtres dits extraterrestres. Voilà. Et c'est en 2014 que j'ai créé l'association avec Nicolas Dumont, qui est psychologue clinicien hypnothérapeute, qui a accepté de co-créer avec moi cette association, qui ensuite a été maintenant reprise par Isabelle de Cochecot, qui est psychologue clinicienne hypnothérapeute. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé cette association, parce que moi-même j'ai vécu des expériences.
Alors, pourquoi avoir choisi cette période de juillet 2021 pour écrire Contact enlèvement lors de rencontres OVNI, rencontres extraterrestres avec des expérienceurs français qui parlent, où vous avez une quinzaine, pour ne pas dire une vingtaine, de témoignages. Pourquoi écrire ce livre maintenant ?
Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus quand même, hein. Donc c'est un travail collectif qui s'est fait grâce avec les expérienceurs de l'association. Sur le nombre total, il y en a 18-19 qui ont accepté de témoigner, donc de raconter sous le couvert d'un pseudonyme, soit sous leur vrai nom, leur expérience. Et la participation des psychologues, de 3 psychologues de notre association qui ont donc ajouté leur expérience en parlant à la fois de du phénomène lui-même et puis en même temps au niveau psychologique et en même temps sur la partie l'hypnose. Mais Isabelle de Cochecot va en parler. Et puis un autre psychologue, Maxime Safran, qui lui parle de la partie de la mémoire. Voilà, pour pouvoir approfondir le phénomène, parce que souvent on a des réminiscences, des récurrences qui arrivent dans les souvenirs ou dans les rêves, et il y a un certain nombre de faisceaux, je dirais, qui amènent à se poser un certain nombre de questions en tant qu'expérienceur, où on est vraiment dérangé, hein, c'est très perturbateur pour certains.
Absolument.
Voilà, et ce livre est disons un premier témoignage français, parce que il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de livres par des ufologues ou des témoins aux États-Unis, mais en France, à part Marie-Thérèse de Brosse qui a écrit sur les expérienceurs, mais du monde entier, Éric Zurker aussi qui a écrit sur des témoignages, mais disons que les expérienceurs eux-mêmes n'avaient pas vraiment ensemble témoigné français, des expérienceurs français témoigné sur ces expériences-là, voilà.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, moi je l'ai lu 2 fois, la première fois en commençant, comme on commence toujours par la phase numéro 1, donc avec les différents témoignages, voyage astral, les traces sur le corps, Sandrine qui a eu des visions avec l'accouchement d'un enfant, un réalisateur de court-métrage qui parle de phénomènes de Parentelli, voyage astral, etc., etc. Et par moment, je me suis interrompu en me disant « bon, j'arrête, je suis en pleine science-fiction, je vais reboire un petit verre. » Et quand je suis arrivé à la fin de l'ouvrage, où il y a tous les témoignages, que ce soit de Nicolas Dumont, psychologue, que ce soit de Maxime Tarfer, psychologue, que ce soit d'Isabelle de Cochecot, en plus, psychologue clinicienne et que je connais personnellement, à titre personnel, là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai repris le livre une deuxième fois pour le relire, mais avec une autre vision. Je ne sais pas si les auditeurs ont compris ce que je voulais dire. Je crois qu'il faut peut-être commencer par certains témoignages de professionnels avant d'attaquer le livre par lui-même. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça m'a fait rappeler Jung, ce philosophe qui a étudié le paranormal, qui a étudié ce qu'on appelle les petits gris, utilisé en 1901 dans des romans de science-fiction. Et j'ai découvert des choses fabuleuses. L'amnésie traumatique, la synchronicité, mais là je vais en parler avec Isabelle de Cochereau. Chère Myriam, ne quittez pas parce que on va faire une triangulaire à nous trois. Isabelle de Cochereau, es-tu près de nous?
Oui, oui, je vous entends parfaitement bien.
Bonjour Isabelle.
Salut à tout le monde. Bonjour
Isabelle.
À tous nos auditeurs qui vont rêver cet été apparemment. Pour nous, c'est tellement familier maintenant que ça nous paraît plus extraordinaire. Et ça devient vraiment presque difficile d'en parler parce que ce qui te semble impossible à entendre, pour nous, c'est un petit peu je dirais pas le quotidien quand même, mais ça ouvre tellement, tellement d'horizons qu'on est obligé de penser autrement. Et vraiment, un livre comme ça est fait aussi pour qu'on ouvre nos esprits, en fait. Voilà.
Alors, ce que je constate, c'est que toi, en tant que psychologue clinicienne, tout d'abord, le psy ne sait pas si le patient reflète réellement la réalité. Et la technique que tu utilises d'hypnothérapeute, en tant qu'hypnothérapeute, permet de faire des techniques d'hypnose régressives, et nous allons expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que l'hypnose régressive, en utilisant un questionnaire pour l'expérienceur très précis, ce questionnaire. Qu'est-ce que l'hypnose régressive ?
Alors, je vais essayer de remettre un petit peu dans l'ordre parce que sinon on va pas vraiment comprendre le processus. Au début, nous faisons des entretiens. Nous faisons des entretiens, que ce soit Myriam ou Bérangère, on peut la nommer puisqu'elle a participé au livre, alors bien entendu.
Oui, Bérangère Morisseau.
Voilà. Donc toutes les deux sont à la tâche pour faire un premier filtre en quelque sorte, c'est-à-dire savoir si les gens qui viennent discuter, enfin contacter le CERO, sont vraiment des gens qui auraient vécu des enlèvements, a priori des enlèvements. Donc c'est un premier filtre, sachant que Myriam comme Bérangère ont toutes les deux vécu ce genre de
oui.
situation et donc sont à même à bien reconnaître, à appréhender. Ensuite, il y a plusieurs psychologues qui sont contactés pour que l'on reprenne un deuxième entretien. Et cet entretien, outre le fait que, évidemment, on va reprendre les mêmes thématiques, le même récit, on va avoir notre oreille de psychologue. C'est-à-dire que c'est un entretien où on est quand même tous des cliniciens. On n'est pas des psychologues d'autres obédiences, on est vraiment des cliniciens.
Oui.
Donc on est apte à reconnaître des gens qui auraient tendance à fabuler ou bien qui auraient des gros problèmes psychiatriques ou psychologiques même.
Tout à fait.
Donc voilà, ça nous permet un petit peu de classifier, un petit peu de réorienter les gens. Par exemple, il y a des gens qui vraiment, on sent qu'il y a des gros problèmes familiaux, par exemple, on leur propose de régler aussi ces problèmes familiaux, pas forcément dans le CERO, à l'intérieur du CERO, autre part.
C'est ça, oui.
On essaye d'éclaircir les choses pour qu'ensuite, on puisse vraiment travailler sur cette situation d'abduction. Alors, ce travail se fait, peut-être que là j'anticipe un peu la façon de fonctionner du CERO, mais se fait par des groupes de parole. Comme il y a beaucoup de thématiques qui utilisent des groupes de parole, je pense à des gens qui ont vécu d'autres choses. Le groupe de parole est un lieu, je dirais, d'expression qui est déjà d'ordre presque thérapeutique, on pourrait dire. Les gens se confient, se lâchent et peuvent savoir qu'ils vont pouvoir exprimer les choses sans jugement et sans se faire prendre pour des fous, parce que la première chose, c'est évidemment, on a l'impression d'être fou, on a l'impression qu'on va être pris pour un fou. Donc ça, c'est, nous on l'entend sans arrêt, ça. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je ne bois pas, je ne me drogue pas, voilà, ce genre de choses, on l'entend tout le temps. Mais c'est vrai, parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit, c'est-à-dire, bon, c'est des hallucinations, c'est des choses un peu incohérentes. Donc nous sommes là pour faire un peu un filtre, en quelque sorte, pour assurer que les gens sont sains d'esprit, voilà, avec des perturbations, bien sûr, liées à ce qui se passe.
À ces phénomènes. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris dans cette vingtaine de témoignages, c'est que très jeune, il y avait déjà des apparitions, des transports de corps astral ou corps physique. Et par moments, je me suis même posé, est-ce qu'on peut parler avec cette technique d'hypnothérapeutie, de karma-thérapie?
Ça, écoute, je n'en sais rien. Moi, je reste assez prosaïque. Je ne suis pas quelqu'un qui est en dehors de tout ce qui est classique, quoi. Je suis une psychologue, de type classique. Et par contre, je suis extrêmement ouverte. Alors, karma-thérapie, je ne saurais pas te dire parce que je ne sais pas trop ce que c'est que ça.
Le karma.
Oui, je sais, je comprends bien.
Ça provient un petit peu du yoga, où on a le karma, on essaye de revenir en arrière. Donc, en un mot, reculer pour mieux avancer.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que lorsqu'on propose une séance d'hypnose, on dit à la personne déjà ce que ça représente, l'hypnose, c'est-à-dire que ce n'est pas une découverte magique, ce n'est pas quelque chose qui va vous ouvrir tout d'un coup les rideaux d'un théâtre et vous allez tout voir sur scène. Non, c'est la personne qui entre en état d'hypnose, elle y vient avec sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses extraordinaires. La personne se souvient peut-être petit à petit, peut-être avec des flashs, peut-être avec des images qui seraient des images un petit peu codées ou symboliques. Et il y a des choses dont on se souvient et d'autres dont on ne se souvient pas. C'est-à-dire il peut arriver qu'une personne ait des tas d'impressions qui lui paraissent très très fortes. Et puis, en hypnose, il ne se passe plus rien. Ou bien c'est du blanc, ou bien il y a une brume. Tu vois, c'est pas quelque chose de magique. Et ça, il faut bien le comprendre, il faut bien le saisir, parce que ça fait partie, l'hypnose n'est que la partie d'un processus. Et vraiment le génie, je dirais, bon, j'exagère peut-être en disant génie, mais quand même, le génie de Myriam, c'est d'avoir vraiment créé une association qui permet aux personnes, justement, d'être dans un processus de compréhension. On n'est pas dans quelque chose de magique, on est dans un processus et le fait d'être dans le séro et de participer au groupe de parole, par exemple, fait partie aussi de ce processus.
Alors, grâce à vous, je me suis replongé un petit peu dans mes études de philosophie, donc avec la mémoire exosomatique et l'enregistrement de souvenirs en dehors du cerveau, qui sont passés par la césure, comme disait Freud, quelque part dans le cerveau, dans le cortex, on ne sait pas lequel, le gauche, le droit, et des souvenirs qui ont disparu pour diverses raisons, parce que ça a été traumatisant. Dans les expériences, ce qui m'a étonné, c'est le fait de ce traumatisme physique avec des douleurs que les expérienceurs ont ressenties. Et cette volonté de dire, bon, ben, je vais en parler. Et les aliens, pardon, ou Petit Gris, de dire, non, vous allez vous souvenir de rien du tout. Et effectivement, il y a comme des traces sur du sable, et avec les vagues de la mer, les souvenirs s'estompent pour disparaître. Et grâce à vos questionnements, dans cette technique d'hypnothérapeutie, vous réussissez à faire ressurgir les souvenirs. C'est un peu une hypnose régressive. On peut appeler même ça hypnose spirituelle.
Je vais parler de l'hypnose régressive et je pense que Myriam sera mieux à même de montrer par sa propre expérience comment finalement les souvenirs reviennent, parce que il s'agit pas encore une fois de déployer tout d'un coup des souvenirs, mais il y a des choses qui reviennent même à la conscience au fur et à mesure du temps. Mais je vais d'abord, si tu veux bien, parler de l'hypnose régressive. Donc la personne, on convient avec elle de voir quel type de souvenir, quelle bribe de souvenir elle voudrait essayer de revisiter, en quelque sorte. Sachant encore une fois, et là je mets juste une petite parenthèse, que l'hypnose n'est pas quelque chose qui est la vérité. L'hypnose est quelque chose qui permet d'ouvrir des portes, mais on peut pas dire.
C'est un instrument.
C'est un instrument, ça n'est pas la vérité. Alors qu'on ne commence pas à nous attaquer en disant « oui, voilà, il utilise les hypnoses comme ça ». Non, on sait que ce n'est pas la vérité absolue. On sait que c'est un instrument parmi d'autres et qu'il peut y avoir des bribes de choses qui reviennent et puis d'autres choses qui sont encore cachées. Mais c'est l'instrument qui nous permet en tout cas d'approcher le plus et de faire aussi une reviviscence en quelque sorte. Et alors, je reviens donc à mon hypnose. On demande à la personne de voir quel type de situation la personne aimerait revisiter. Ensuite, par un processus, on met la personne dans un état de relaxation et puis d'hypnose. Et puis, on reprend avec elle une image qu'elle a donnée auparavant. Donc, on ne l'invente pas. Qu'elle a donnée auparavant, ça peut être, je donne un exemple, n'importe quoi. J'étais dans un champ, j'ai vu un ovni arriver, il est venu, et puis j'ai entendu un bruit, puis après, il n'y avait plus rien. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Et là, on remet la personne dans cette image-là, en redonnant les détails, etc. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer et on va proposer à la personne d'aller un petit peu plus loin ou de voir la chose d'une autre manière, d'un autre endroit. Ou bien, enfin, il y a des tas de techniques, si tu veux, pour pouvoir revisiter la scène. Et puis, la personne revisite la scène, mais avec souvent de l'émotion, beaucoup d'émotion. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent, sans que je sache de quoi il s'agit, qui disaient « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Mon Dieu !» Alors là, évidemment, moi, en tant qu'hypnothérapeute, je suis en dehors de la scène et je vais poser des questions. Si je vois que les personnes sont trop fragilisées, il y a des techniques aussi pour permettre de couper l'émotionnel de la vision, de la vue, de ce qui revient. Mais on y va tout doucement. On y va tout doucement. Si on sent que la personne n'est vraiment pas bien du tout, on propose de revenir en arrière. Si elle veut, on lui dit d'arrêter là, etc. Enfin, c'est tellement personnel. Chaque session est tellement personnelle.
Absolument,
que c'est difficile de donner une session type. Mais j'ai envie de laisser la parole à Myriam parce qu'elle, elle peut te dire vraiment ce qu'elle a vécu, elle, à l'intérieur de certaines sessions.
Alors, il y a une chose que je voudrais quand même préciser à nos auditeurs, c'est que ce n'est pas uniquement des récits que le font, les patients, les expérienceurs.
Expérienceurs, on dit expérienceurs parce que c'est un mot, un néologisme en fait, mais
voilà,
qui est utilisé.
Oui, oui.
Dans les milieux, je dirais, de l'ufologie, voilà. C'est un néologisme qui a été trouvé pour ne pas dire témoin, parce qu'il s'agit justement, comme il y a de l'émotionnel, il y a vraiment de l'expérience. C'est pas juste du témoignage extérieur, voilà.
Alors, non seulement il y a les récits, mais il y a quand même, dans les récits de ces personnes qui ont été abductées, il y a quand même des preuves matérielles avec des implants qui ont été trouvés. Je pense à des implants dans le corps, je pense à des implants dans des dents. J'ai fait des recherches, grâce à Internet et à des relations à l'étranger, qu'en Russie, il y a eu des choses extraordinaires qui ont été, et dont on ne parle absolument pas. Donc non seulement...
Voilà,
les abductions, ces rencontres extraterrestres, ce ne sont pas uniquement des personnes qui viennent vous raconter. Et je voudrais demander à Myriam comment elle a pu faire venir les gens, parce qu'on vous connaît par le bouche à oreille. Moi, j'ai vu, dit une personne, c'est pas moi, Nicolas, qui raconte, mais c'est une personne qui dit, moi j'ai vu, mais j'arrive pas à m'en sortir. Le médecin qui a reçu une personne qui souffrait énormément, qui était malade, et puis brutalement dit, il s'est passé quelque chose, et maintenant je suis guéri, je ne ressens plus rien. Le médecin, il dit, oui, effectivement, je peux pas mettre ça dans mon rapport médical. Allez voir un organisme. Et il parle du séro parce qu'il le connaît. Comment faites-vous pour vous faire connaître? Et là, je repasse la parole peut-être à Myriam.
Alors, Nicolas, deux choses quand même. Je voudrais revenir juste sur le souvenir par rapport à l'expérience de son vécu. Moi, j'étais informaticienne et je sais qu'en informatique, je dirais le cerveau, c'est un ordinateur assez complexe. Mais le souvenir, en fin de compte, va s'enregistrer dans une zone du cerveau, comme un enregistrement virtuel, je dirais, qu'on va traiter quand on va traiter une information. Et à un moment donné, on demande à cette information de remonter en conscience et de relater, de dire effectivement lors d'une régression sous hypnose. Et d'ailleurs, Nicolas Dumont et même Isabelle m'ont dit en tant que psychologue, le corps ne ment pas, c'est-à-dire que le souvenir du traumatisme ressort dans tout le corps et on revit la scène vraiment physiquement. Voilà, c'est très important. De constater justement que des faits, entre guillemets, se sont produits et ont laissé une trace dans le corps, dans l'aspect physique du vécu et qui ressort à ce moment-là. Voilà. Donc le souvenir remonte et par la parole aussi, c'est-à-dire tous les gens qui parlent, quand on échange l'information, on partage son expérience, ça va aller chercher chez d'autres personnes qui ont vécu des expériences, ça va aller chercher le souvenir et le faire remonter au niveau du conscient parce qu'à ce moment-là, elles se sentent en sécurité de pouvoir en parler dans le groupe de parole, et elles font remonter cette information qui est traumatique, qui est traumatisante, et elles le confient. Le délivre à ce moment-là, des fois des souvenirs très anciens. Hein. Voilà, ça c'est une part dans la partie, du souvenir et de comment l'exprimer. Alors pour dire comment les gens viennent vers nous, au tout début, ça a été déjà de pouvoir, par le biais des ufologues, parce qu'il y a des ufologues qui traitent, qui font des enquêtes sur les atterrissages et qui connaissent des gens qui ont vécu effectivement des rencontres rapprochées, qui nous disaient ben, « je peux vous envoyer telle ou telle personne ». Et puis il y a eu d'autres... Alors on a essayé de communiquer par des radios, je dirais, sur le web par exemple, que nous existions, qu'on accueillait des personnes qui avaient vécu des traumatismes, et on est passé par, je dirais, un outil, entre guillemets, ou des groupes qui s'appellent les repas ufologiques, qui sont dans toute la France, et qui nous ont permis de nous présenter et de dire pourquoi nous avions créé cette association et comment on fonctionnait. Donc, au fur et à mesure, puis après, ça a été des conférences. On continue à faire des conférences pour présenter notre association, comment on fonctionne, ce que nous vivons, ce que nous avons découvert au fur et à mesure de ces années. Parce que c'est vraiment comme un iceberg, c'est-à-dire que vraiment le dessus est disons visible entre guillemets, mais en dessous c'est énorme. C'est-à-dire plus on avance, plus on découvre de choses, mais c'est fantastique quoi, les informations qu'on récolte au fur et à mesure qu'on échange entre personnes qui ont expérienceurs et avec les psychologues. Et même des ufologues viennent nous rencontrer pour dire bah, écoutez, voilà, il y a tel phénomène, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et, voilà. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire de plus en plus, plus la parole est libérée, plus les gens, même des personnes beaucoup plus âgées, qui viennent nous voir et nous disent « j'ai jamais parlé à qui que ce soit de ce que j'ai vécu, je n'osais pas, parce que j'avais peur de partir en hôpital psychiatrique ou être considéré comme… » Oui, oui, mais véritablement, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc, ils se confient, ils disent à travers leur expérience, des fois ils disent simplement « je voulais vous le dire, j'ai vécu ça dans les années 60 ou 70, je vous le dis, je vous délivre cette information. Pour moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ils nous remercient de l'écoute et ils repartent sur leur chemin. Mais il y en a qui viennent, ils sont quand même, pour certains, sont vraiment bouleversés, dévastés et arrivent
traumatisés. On peut employer le terme traumatisé.
Tout à fait, absolument.
Alors, dans tous les témoignages, vous-même, Myriane Bellemare, vous avez eu des apparitions, et vous avez même été enlevée aussi.
Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, c'est assez étrange parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes abductées, moi, voilà ce qui m'est arrivé, c'est que on considérait ça comme quelque chose qui était soit du rêve lucide, soit d'un cauchemar, voilà, qui était récurrent, sans comprendre pourquoi, c'est-à-dire avec des visions de petits êtres qui vous approchent dans la nuit, avec des yeux, enfin une tête qui est plutôt pas très très agréable à regarder, et qui s'approche et on les voit autour du lit, on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et le souvenir disparaît parce que, à la fois, comme a expliqué Isabelle de Cochecot tout à l'heure, c'est que il y a le traumatisme qui fait qu'on n'a pas envie de se rappeler parce que ça nous fait très peur, et en même temps les êtres qui nous approchent, les petits, comme on les appelle, les petits gris, parce qu'on s'aperçoit qu'en France, beaucoup d'expérienceurs les rencontrent. Hein. Donc c'est international d'ailleurs, puisqu'on a des contacts avec d'autres pays, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de pays qui eux-mêmes, des gens qui avaient été approchés par ces mêmes êtres. Et dans le cheminement de retrouver l'information, en fait, la faire ressurgir, ces êtres, on les voit, ça revient d'une façon récurrente. Et moi, si vous voulez, il y a eu des moments où j'étais pleinement éveillée, c'est vrai, où j'ai vraiment vu des scènes avec des êtres se manifester, quoi, s'approcher, ou se déplacer devant moi, vous voyez, j'avais une scène clairement éveillée. D'autres, à d'autres moments, c'était... Alors, j'ai eu une expérience, c'est vrai, où j'ai été moi-même étonnée de ce qui s'est passé, parce que j'étais pleinement éveillée, et je suis sortie de mon corps en plein éveil, et en allant... Alors, je le décris dans le livre, hein, mais en allant sur... J'étais chez moi, dans mon appartement, et en allant sur le balcon, parce que je me sentais observée, je vois un être qui était là, assez grand, assez musclé, avec une peau grise, une tête assez volumineuse, et qui était en train de m'observer à l'intérieur de la pièce où j'étais. Et moi-même, enfin, j'ai pu l'observer parce que, si vous voulez, j'étais sortie de mon corps. Donc c'est assez bizarre de dire ça. Moi, j'ai fait des sorties de corps assez fréquemment bien avant, mais là c'était en pleine conscience, et j'ai vu cet être qui était là, qui regardait, et j'ai même je vous dis, ça s'est fait, mais vraiment automatiquement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit, parce que j'avais quand même une petite crainte de ce qui allait se passer. Donc je me suis déplacée dans sa tête, c'est assez étrange, mais c'est ce qui s'est passé, et par ses yeux, je voyais, j'essayais de voir ce qu'il voyait dans la pièce où j'étais, et en fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de lumière, c'était inondé de lumière, et donc je me suis dit, bon, en ressortant de lui, entre guillemets, je me suis dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème, il ne pourra pas voir ce que je fais, ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai réintégré mon corps. Mais si vous voulez, il y a des scènes où, effectivement, moi j'ai été témoin d'OVNI au moins 5 à 6 fois. Donc je sais que, pour moi, si vous voulez, j'ai appelé ça OVNI parce que, ayant observé pendant 10 ans des différents objets, enfin je dirais objets au sens satellite,
avec un
télescope, observer les planètes, le ciel profond, voilà, j'ai l'habitude de voir passer aussi des avions, enfin bon, il y a tout un tas de choses qu'on voit passer dans le ciel, des météorites, enfin voilà, des différentes choses. Ce que j'ai vu correspondent à ce qu'on, en général, on détecte comme ovnis, voilà.
C'est ça, objet volant non identifié.
Tout à fait, tout à fait.
Et il y a eu, et ça, chers auditeurs, il y a eu dans les années 1980-85, ce qu'on appelait la vague d'OVNI en Belgique, et même des militaires ont fait appel à des spécialistes pour aller observer sur les radars et des pilotes d'avions de chasse, donc des pilotes qui sont psychologiquement préparés et sains de corps et d'esprit, pour aller suivre ces objets, car la preuve était irréfutable. Ça a fait partie d'ailleurs dans les années 85-88 de nombreux articles et livres avec cette histoire d'objets volants non identifiés, la vague d'OVNI en Égypte, en Belgique. Alors, il y a un témoignage également, plusieurs témoignages, dont le vôtre, Myriam Belmire, c'est ces traces sur le corps et ce dialogue que vous avez les uns et les autres, non pas par la parole, mais par transmission de pensée.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que la télépathie, pour ne pas la nommer, c'est le plus court chemin, je dirais, quel que soit d'ailleurs le pays où vous êtes, où vous pouvez communiquer. Je pense que ce mécanisme de transmission, je dirais, entre guillemets, de la parole par la pensée, fait que avec nous, pour beaucoup, c'est vrai, on constate ça, c'est-à-dire qu'on entend véritablement des questions, des réponses, et on communique de cette manière-là. Donc c'est vrai que ça paraît quelque chose. Il y a des personnes qui ont entendu parler de cette notion de télépathie, mais c'est vrai que pour je dirais beaucoup de gens, ça paraît complètement peut-être impossible, imaginaire, ou que c'est on se parle à soi-même. Enfin non véritablement, on entend véritablement, je dis bien, une parole, une phrase, des phrases dites clairement dans sa tête. Et on peut les réponses, moi-même, mais j'ai même essayé, enfin, il m'est arrivé de le faire avec des personnes humaines, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, ça m'est arrivé, par télépathie, oui, avec les enfants aussi, parfois des enfants, c'est extraordinaire, comment ils captent très bien, ils répondent, ils sont surpris, même je vois les réactions des enfants quand on essaie de communiquer comme de cette manière. Bon, mais pour revenir ces moyens de communication, où pour eux, parce qu'ils ont un langage, parce que parfois on entend une espèce de simili langage qu'ils font entre eux, qui est par onomatopée, par souffle, etc. Qui est surprenant parce que forcément, quand ils se parlent, on ne comprend pas du tout à ce moment-là le langage qu'ils peuvent avoir entre eux. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'ils se tournent vers nous, le seul moyen, enfin je dirais le moyen le plus facile pour eux et pour nous, c'est la transmission de la pensée, enfin par télépathie, oui, c'est caractéristique.
Alors, une chose qui m'a surpris dans tous les témoignages que vous citez dans l'ouvrage, c'est on est finalement des cobayes quand ils viennent vous prendre. Vous êtes placé sur une table chirurgicale, enfin j'emploie ce terme chirurgical, mais sur un endroit plan, et ils font des expériences sur vous pour récupérer un morceau de corps pour analyser et voir même vous implanter. Je pense au témoignage de Bérangère qui, elle, dit avoir été paralysée, qu'elle les a vus, elle a traversé la fenêtre fermée pour se retrouver sur une table. On lui pratique une fécondation in vitro, un FIV, F-I-V. elle rencontre un gynécologue qui lui est impossible de dire « je ne peux pas être enceinte car j'ai un stérilet » et pourtant l'embryon est bien là. C'est étonnant. Et un enfant naît.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ça paraît complètement fou, des fois, ces témoignages. C'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir s'exprimer d'une façon, je dirais, vis-à-vis du public, parce que ça paraît tellement hallucinant, tellement comme si c'était inventé ou un récit complètement... Voilà. Donc, d'où la création du séro, hein. C'est bien pour ça. Mais c'est vrai que dans les enlèvements où on nous prélève des morceaux de peau, où on nous prélève des ovules, même pour les messieurs du sperme, il faut dire les mots comme ils sont, il y a tout un tas d'expériences qui sont faites et des traces qu'on retrouve sur le corps, sur nos corps, le matin, par exemple, si ça s'est fait la nuit. Des fois, ça peut arriver la journée, parce que c'est arrivé aussi des enlèvements dans la journée. On se rappelle quand on va en régression, il y a des personnes qui se rappellent clairement avoir vécu quelque chose de traumatisant, mais la plupart du temps, c'est par le souvenir à travers la régression qu'on va remonter cette expérience qui est vécue sur, disons, dans un environnement comme si c'était un endroit, une salle de chirurgie ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre. On a créé un groupe dans le CERO qui travaille approfondi sur nos expériences, justement, pour récolter des informations au travers de notre vécu et de les rendre plausibles, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles sont les comparaisons avec notre vie de tous les jours, c'est-à-dire dans l'aspect médical, dans l'aspect social, etc. Parce que les enlèvements avec les prélèvements, on s'est posé des questions. Est-ce que nous ne sommes pas suivis comme des rats de laboratoire? Parce qu'on s'est aperçu...
Absolument. Voilà.
On s'est aperçu que des parents, des fois, avaient vécu quelque chose comme ça, ou du moins avaient été témoins d'OVNI, et des fois même nos grands-parents aussi, voyez. Donc ça remonte assez loin, et on se dit, mais en fait, est-ce qu'ils ne suivent pas un petit peu la famille au travers des années, et que y a un suivi, comme on fait un travail en laboratoire sur des cobayes, effectivement, et que on regarde l'état de cet animal ou de cet être humain qui il regarde pour voir comment dans le corps ce qu'il prélève c'est l'état est correct ou malade ou etc. Enfin voilà, mais c'est traumatisant parce que enlèvement d'ovules, enlèvement, il y a tout un tas de processus qui sont faits, même dans les yeux. Hein. Il y a eu des objets qui ont été mis dans les yeux. Enfin bon, ça va assez loin.
Oui, donc,
on ne peut pas dire forcément que ça soit très sympathique, et je dirais même pas du tout parfois. Et on peut se poser la question, quel est leur but? Hein, parce qu'il parlait d'hybridation, à un moment donné, on l'a entendu, clairement.
Oui.
Hybridation de la race humaine avec des êtres, entre guillemets, dits extraterrestres. Mais alors là, on va loin, quoi, parce que ça paraît vraiment, extraordinaire.
Mais non, Myriam, on ne va pas si loin. Prenez dans la Grèce antique les dieux qui sont venus sur Terre copuler avec les femmes terriennes.
Tout à fait, c'est vrai. Quand
donc,
ce
n'est qu'un... un éternel recommencement. Quand vous avez cette histoire extraordinaire d'Alexandre le Grand qui, tout d'un coup, il avait le soleil d'un côté et le soleil s'est tourné pour aveugler ses ennemis et il a pu gagner une bataille. Quand vous avez en Inde ces batailles dans le cosmos avec ces grosses boules qui envoyaient d'autres lumières, quels des rayons laser, comme on emploierait actuellement.
Tout à fait.
Donc, finalement, ce n'est qu'un éternel recommencement. Et vous faites, vous, revivre en 2020, enfin maintenant, au 21e siècle, ce que dans le passé, on parlait. Moi, quand je vois des petits gris Bon, on parlait de ça en 1901, je le disais tout à l'heure dans les romans science-fiction, mais des hommes qui ont déclaré avoir vu des extraterrestres, un général en retraite, Haïm Eshed, responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël de 81 à 2010, qui déclare que son pays est en relation avec la Fédération galactique. Un directeur de la NASA déclare qu'on est en rapport avec des extraterrestres, que le président de la République russe de Kalmoutsi, proche de la mer Caspienne, pour ne pas le nommer, Kirsan Ilyushinov, a rencontré des extraterrestres en 1997. On se dit, mais on ne reste plus, ce sont des personnalités, c'est pas le serrurier, c'est pas le paysan, c'est pas la personne qui rentre d'un voyage ou d'une soirée plus ou moins arrosée chez les amis qui raconte. Ce sont des personnes officielles. Et c'est ça qui m'a intrigué. C'est ça qui m'a intrigué dans votre... Alors, une question que j'aurais aimé poser à Bérangère, cet enfant qui est né, disons, par fécondation in vitro, ça comme ça.
Oui.
Il est né à terme, il a marché très rapidement, il a parlé couramment au bout de 18 mois. Ce qui serait intéressant, c'est de voir son ADN. Est-elle humaine ou...
Ah oui, c'est une très bonne question et c'est aussi un des projets que nous essayons de développer au sein du CERO, c'est-à-dire justement par rapport à toutes vos questions-là, c'est de voir les uns et les autres, qu'est-ce que nous avons dans l'ADN, qu'est-ce que comment nous sommes à travers, ces expériences, et d'aller avec des preuves, tangible, physique, quoi, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a eu des modifications, qu'est-ce qu'on peut trouver, voyez. Et ça, on est en train de réfléchir là-dessus, de voir. La question, c'est aussi d'avoir des scientifiques et des médecins qui veulent bien ou des chercheurs qui veulent bien s'intéresser au sujet et avec nous. Nous essayer de travailler avec nous. Vous voyez, c'est ce qu'on fait.
Oui, mais ils ont tellement peur d'être pris pour des fous. Voilà.
Oui, c'est difficile, c'est vrai. C'est difficile. C'est pour ça que d'ailleurs je remercie jamais assez les psychologues cliniciens qui nous ont rejoints parce que des fois, moi, j'en avais rencontré un peu avant de créer l'association et qui avait où on avait fait des séances de régression sous hypnose, qui étaient très intéressés par le sujet de ce que je voulais faire et monter et créer, mais qui m'ont dit carrément non, on peut pas parce que la profession risque de nous mettre à l'écart, etc.
À l'index, oui, voilà.
Voilà, à l'index. Et je trouve ça bien dommage et bien triste de voir que la science qui devrait justement essayer de s'intéresser à des sujets, même si ça paraît un peu loufoque comme ça, mais déjà de pouvoir étudier, poser des questions, essayer d'analyser des faits sur l'aspect scientifique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ces expériences? C'est quoi tous ces phénomènes qui se passent? Et les traces et les implants? Enfin, vous voyez, tout ça, tous ces éléments qui, en fait, en tant que scientifique, devraient aider à se poser des questions et à chercher à aller plus loin avec nous.
Alors, ce que je trouve étonnamment curieux, c'est qu'aux États-Unis, on a retrouvé des objets implanté. D'ailleurs, vous avez un témoignage de Michael en 2017 où il a des problèmes d'audition curieuse et qu'il a recraché un objet d'apparence technologique non humaine et malheureusement, il est tombé dans l'évier et il a disparu. Mais il y a eu aux États-Unis des objets qu'ils ont trouvés et qui n'ont pas pu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors comment se fait-il que ces personnes qui sont à l'étranger ne prennent pas contact avec vous.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que le docteur Roger Lear, qui était pendant des années ce chirurgien qui s'est intéressé au phénomène des implants chez les abductés, a fait quand même des analyses quand il a pu les retirer, où il a trouvé de la matière qui n'était même pas terrestre.
Absolument.
Sur ces implants. Souvent les implants se dilataient, disparaissaient, se tombaient en poussière dès qu'ils étaient retirés du corps de la personne. Donc c'était très difficile pour pouvoir les analyser. Mais il a fait quand même une investigation pendant des années pour comprendre, essayer d'analyser ce qu'étaient ces implants à l'intérieur du corps des personnes, des personnes abductées en l'occurrence.
C'est ça.
Voilà, notre vœu pieux, ça serait de trouver quelqu'un comme le docteur. Alors il est décédé, on ne sait pas ce que c'est devenu aux États-Unis. On a essayé de poser des questions là-dessus, on n'a pas eu de réponse, de savoir ce que justement cette recherche, parce qu'il avait fait un petit groupe de recherche sur ce domaine. On ne sait pas ce que c'est devenu aux États-Unis par rapport à ces études. France, on espère que des biologistes, je dirais, avisés, intéressés, nous rejoignent pour essayer de travailler avec nous, pour justement pouvoir extraire certains implants quand on peut les extraire, cherchent à analyser en laboratoire ce qu'il y a dans ces implants. C'est ce qu'on souhaiterait, oui, tout à fait, d'aller plus loin par rapport à ça et de savoir quelle est la fonction de l'implant. Parce que ça, c'est aussi très important de comprendre pourquoi cet implant est là,
quelle fonction
il aurait, est-ce que c'est comme un repère, vous savez, comme un signal, comme quand on met des, pour les, vous savez, les animaux qui sont...
Qui vont se balader...
Voilà, on les repère après les ceux qui se font un suivi, les chercheurs qui travaillent sur la vie de certains animaux font les recherches, les retrouvent par des balises particulières et retrouvent l'animal et le suivent. Bon, c'est un peu difficile de dire ça, mais on a l'impression qu'on est un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que on est suivi, on est un peu comme, vous savez, comme des avec la Wi-Fi là qu'on a sur ordinateur. Et on nous repère, le signal est actif, hop, et on sait que là, vous êtes là, ou vous êtes là, ou vous êtes là. Vous voyez, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, parce que ça peut paraître un peu terrifiant, quelque part.
Mais bon, si, quelque part. Moi, quand j'ai lu votre livre, j'ai été un peu, à un moment donné, à la deuxième lecture, je l'ai regardé d'une autre manière, je l'ai lu avec une autre optique, puisque c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, je ne parlerai pas de moi, mais j'ai eu également quelques expériences, pas aussi poussées que les vôtres. Mais là, je ne suis pas là pour parler de moi. C'est par moments, ça fait peur, parce que on voit que toutes ces personnes qui ont été abductées ont été abductés par, je dirais, la même race d'extraterrestres, la même race d'aliens. Donc ce ne sont pas des gens qui sont bons. Ce n'est pas ce qui me semble. Ces recherches qui sont traumatisantes. Alors que il y a des témoignages de d'ovnis et d'entités qui ont empêché certaines personnes d'utiliser les fusées atomiques, d'appuyer sur un bouton. C'est ce que racontait dans l'émission où j'avais reçu Jean-Pierre Petit. Il y a par moments, on se demande s'ils ne sont pas là pour nous aider à empêcher des catastrophes.
Oui, c'est vrai que... C'est vrai que ça paraît paradoxal entre ce qu'on nous fait et puis ce que certains êtres, je dirais, technologiquement avancés font, dans le sens Ils nous le disent d'ailleurs, pour beaucoup, ils nous le disent. Arrêtez votre course au nucléaire, vous allez tout détruire. Nous sommes tous reliés dans le cosmos, tous reliés. Donc ce que vous faites là sur Terre, il y a des répercussions dans votre système solaire, dans la galaxie et même dans l'univers. Ça paraît hallucinant, mais c'est vrai, puisque des scientifiques se sont aperçus par leurs recherches que dans le cosmos, nous sommes reliés comme sur une toile, si vous voulez. Où
absolument.
Chaque groupe, je dirais, en l'occurrence des galaxies, communique avec d'autres galaxies partout dans l'univers. Donc, même si nous sommes un petit point d'aiguille dans la galaxie, même dans le système, c'est comment vous dire ça? Ce qu'ils font pour nous faire comprendre qu'on est en train de s'auto-détruire, mais qu'en même temps on risque de détruire ou endommager gravement d'autres systèmes, effectivement, on pourrait penser qu'ils sont beaucoup plus matures que nous, quelque part. Alors c'est ces paradoxes-là qui sont troublants. C'est ce qu'on essaye de comprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'un rat, je prends un exemple, qui est un exemple de laboratoire, hein, le rat qui est sous le regard du laborantin ou du chercheur qui est en train de faire des expériences qui va servir au plus grand nombre, puisque, mettons, des humains, est-ce que le rat qui est lui-même, est-ce qu'il peut comprendre ce qu'on lui fait à ce moment-là, et que ces expériences qui sont faites sur lui pour apporter des soins ou carrément guérir l'homme, est-ce qu'il sait lui ce qu'on lui fait pour l'humanité, par exemple, hein? C'est une question personnellement que je me suis posée. Mais ça n'empêche que alors je dirais que les êtres, parce qu'il y a les petits gris, mais il y a les grands aussi, ce qu'on appelle les grands gris, qui sont vraiment les chefs de labo, je dirais, en quelque laboratoire, je dirais, qui eux sont vraiment très très rigoureux, très très stricts, très voilà. Je reprends parce que c'est de par de ce que j'ai observé et puis de ce que d'autres expérienceurs ont dit. Réprimandent les petits en leur faisant comprendre qu'ils doivent prendre plus de précautions, faire attention à nous, être plus attentifs à ce que nous vivons, entre la peur, les douleurs, etc. Voilà. Il y a aussi cette démarche-là. Mais c'est vrai que ça paraît traumatisant, choquant, de par ces comportements-là, par rapport à ce que nous vivons, les traumatismes psychologiques ou physiologiques. Voilà, c'est vrai que c'est très perturbant et en même temps beaucoup d'interrogations qu'on se pose dans ces paradoxes. C'est-à-dire, ils désactivent des têtes de missiles nucléaires pour éviter que que les explosions et qu'il y ait des guerres qui soient irréductibles. Et en même temps, il y a ces enlèvements. Alors, il y a d'autres êtres qui nous approchent. On a constaté des êtres à la peau bleue, par exemple, qui sont tout à fait bienveillants, qui nous enlèvent pas, mais qui s'approchent, qui nous transmettent des informations. On a constaté aussi d'autres êtres qui sont prêts et qui ressemblent véritablement, qui nous ressemblent beaucoup, mais qui ont d'autres, je dirais, caractéristiques de couleur de peau ou qui n'ont pas de cheveux, pas de sourcils, etc., et qui sont tout à fait pacifiques. Donc voilà, je vous dis c'est vrai qu'au premier abord, on peut penser véritablement que c'est des êtres maléfiques, quoi. Alors,
quand je disais que c'est une race d'aliens, moi je vais employer le terme alien, plutôt que de donner petit gris, grand gris, bleu, etc.
Il
y a différentes races avec différentes technologies qu'ils utilisent et avec différentes pratiques. Donc, ce qui prouverait ce que au début de l'émission je te présentais en disant que la CIA commence à déclassifier, que la Royal Air Force fait pareil, que les Français, malheureusement, Par le fait de tous les changements politiques, il y a un groupe qui disparaît et un groupe qui est créé, comme le GEPAN qui devient le GEPAN, puis le GEPAN qui devient le CETI, puis, etc. Chacun tire un petit peu les conclusions, et finalement, les extraterrestres, est-ce qu'ils ne nous ont pas donné, et on trouve des artefacts dans les mines, avec des objets non identifiés, est-ce qu'il n'y avait pas une nouvelle technologie qu'ils nous ont apportée sur Terre? Je pense au chercheur Tesla qui avait fait les expériences d'électricité. Je pense à différents chercheurs mathématiciens avec la technologie des mathématiques quantiques. Comment se fait-il qu'ils trouvent tout d'un coup, du jour au lendemain, une formule? Je pense à Einstein, qui a eu des visions également.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que ça paraît... on peut se poser la question que depuis combien de temps ces êtres-là nous suivent, entre guillemets, nous observent, ça approche des scientifiques. Oui, parce que moi j'ai entendu, en fait, c'est vrai que les expériences, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les expérienceurs sont de toute catégorie. Hein, parce qu'il y a...
Absolument.
Il y a des scientifiques qui ne le disent pas, nous on le sait, hein, mais il y en a qui, parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache, ils sont approchés aussi. Hein. Donc, et ça touche toutes les couches de la société, aussi bien des cadres, des gens qui ont des fonctions très, voilà, au niveau économique très, très poussées, et que de simples personnes, je dirais, qui travaillent dans des conditions même ouvrières, etc. Ça touche tout le monde, vraiment.
C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'avais parlé du responsable de sécurité spatiale en Israël, que j'avais parlé du président de la République, mais j'ai oublié de dire, Eisenhower lui-même a été approché par des extraterrestres, il l'a dit.
Tout à fait, exact.
Chère Myriam, je vais vous couper la parole pour laisser la parole à Catherine pour les rares annonces de concerts, de spectacles pour nos éditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez le journal des collectionneurs que j'anime, moi, Nicolas Tikhobrazov, avec nos deux invités d'aujourd'hui, Myriam Belmire, présidente du CERO France, informaticienne, et Isabelle de Cochecau, vice-présidente du CERO France, psychologue hypnothérapeute, à l'occasion de leur ouvrage qu'ils viennent d'écrire, qui va être prochainement disponible, « Rencontres extraterrestres, les expérienceurs français parlent ». Et je passe la parole à Catherine, 30 secondes, et je vous redonne la parole, chère Myriam et chère Isabelle, juste après ces 3 minutes. Allez Catherine, à toi.
Alors, OVNI, la BD, tome 1, révélation d'un secret, de Jean-Claude Bourret, qui est le scénariste, et de Pascal Pelletier, qui est le dessinateur. Constitué d'incroyables histoires basées sur des faits authentiques, Jean-Claude Bourret, journaliste référent et reconnu dans le domaine, nous raconte ces extraordinaires révélations mises en image par Pascal Pelletier, qui est donc dessinateur. Le prix est de 15,90 € et c'est aux éditions A et H BD. Rêve d'été, mercredi 28 juillet à 14h30, en compagnie de compositeurs et peintres illustrant à merveille cette saison éblouissante. Marie-Aude Fourier commente les pages musicales célèbres, joyeuses à découvrir, tableaux signés Monet, Vivaldi, Signac, Tchaïkovski, Van Gogh, une évasion pleine de charme, d'humour et de couleurs. Le tarif est de 20 €. Le règlement se fait par chèque ou virement bancaire et vous recevrez ces coordonnées par retour de mail. Réservation par retour, vous recevrez le lien de connexion Zoom la veille de l'envol. Alors Marie-Aude Fourier, son numéro de téléphone, c'est 06 29 74 10 80 et son courriel Marie, trait d'union Aude, Fourier avec deux R, @orange.fr.
Alors, son téléphone, 06 29 74 10, 2 fois 5, 80. Courriel marie-aude.fourier avec deux R, IER, @orange.fr. Une magnifique exposition
de Nicolas de Staël, Tradition et rupture, avec 50 toiles datées de 1945 à 1955. C'est jusqu'au 10 octobre 2021 à la Doyenné, place Lafayette, à Brioude, dans le 43, c'est la Haute-Loire. Tous les jours, sauf lundi matin, deux concerts exceptionnels aux arènes de Montmartre. Nuit de Montmartre de Kessel avec Natacha Fialkowski, Balalaïka Echon, Olivier Caour qui joue de la guitare, Pascal Storch, la guitare chant, et le comédien Pascal Monge le vendredi 23 juillet à 19h30. La réservation se fait au 06 70 02 73 10. Le tarif normal est de 16 € et le tarif réduit de 11 €.
Alors, la réservation se fait au 06 70 02 73 10. Prévoyez un coussin pour adoucir les sièges en pierre des arènes. Exposition au musée Masséna, une rétrospective de
Gucci. C'est à Nice. En partenariat avec la galerie Capabsa à Nancy. Orfèvre, il conjugue la technique de la dinanderie avec l'incrustation de pierres dures dans le métal précieux qu'est l'argent. L'exposition a lieu jusqu'au 19 septembre au musée Masséna, Villa Masséna, 65 rue de France à Nice. Téléphone 04 93 91 19 10 et les horaires c'est de 10h à 18h.
Alors, vous avez tout le reste sur le site Arcorus, Festival du cinéma à Niort, manifestation à Gare de l'Est, exposition rue Boissière, les livres, les CD, et évidemment, rencontres extraterrestres, les expérienceurs français parlent, édité par Ferro France, et vous pourrez le commander chez https://www.lulu.com. Je repasse la parole à Myriam pour savoir quel sera le prix de l'ouvrage.
Il est à 20 euros.
20 euros et il fait, je l'ai 240. Sous les yeux, 100.
240 pages.
Oui. Voilà, donc c'est 20 euros. Je répète, vous pourrez le commander, c'est www.lulu.com.fr. Chère Isabelle,
oui,
les gens qui viennent vous voir, oui. Ils viennent spontanément, c'est sûr. Mais oui. Après, est-ce qu'ils se laissent débrider, si on peut dire, employer ce terme facilement?
Alors, débrider, c'est-à-dire que quand
est-ce
ils
qu'il
viennent,
se lâchent
ils se lâchent. Oui, ils viennent bien souvent avec un espoir, c'est-à-dire que les personnes se disent que là enfin, ils vont être écoutés, ils vont être entendus et ils pourront aussi échanger. Parce que c'est une chose de raconter sa propre histoire, une chose de penser être cru enfin, mais après ça, il y a évidemment ce que Myriam a dit, c'est-à-dire cette curiosité. Pourquoi font-ils ça? Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert tout ça? Il y a des tas de questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le CERO est un espace, je dirais, un espace non seulement d'interrogation, de pensage, entre guillemets, des plaies de l'âme, en quelque sorte, mais aussi c'est vraiment comme un endroit où les gens se retrouvent en étant sûrs de pouvoir être tranquilles, de pouvoir être écoutés, de pouvoir être compris.
Et ça, c'est très, très important. On a eu beaucoup, vous savez, de gens qui sont venus pas dans un très bon état. Parce que ce que l'on appelle le stress post-traumatique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des stress que l'on rencontre après les guerres ou après les attentats ou après des accidents. On retrouve des gens qui ont les symptômes de stress post-traumatique parmi les abductés. Pas tout le monde, mais quand même un certain nombre. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir dormir paisiblement la nuit, le fait d'être très attentif à certains bruits, à certaines lumières, à certaines situations. Des gens qui ont une humeur qui change, une humeur vraiment, même auprès de la famille, hein, même auprès de la famille, des gens nerveux, des gens colériques, ou alors des gens qui s'isolent. On a beaucoup de gens qui, pensant que la société ne peut pas les entendre ou ne comprend même pas ce qui se passe, s'isolent, ne supportent plus d'être dans la foule, d'être auprès de gens qui sont bouchés, nous disent-ils. Et c'est vrai, et j'avais envie de dire ça, je crois que c'est important aussi, de dire que avec l'idée qu'il peut y avoir des êtres extraterrestres, que ça existe, eh bien, on ouvre notre champ de pensée, non seulement de pensée, mais c'est comme si on ouvrait toute une nouvelle écologie. Hein, je parle d'écologie parce que, justement, en ce moment, on en parle beaucoup. Eh bien, ça ouvre un champ extraordinaire en se disant que non seulement on n'est pas seul dans l'univers, et qu'il y a des tas d'animaux, mais il peut y avoir aussi d'êtres conscients qui sont très différents de nous. Et ça, ça ouvre l'esprit extraordinairement. Et puis,
alors, dernière une réaction. Oui, excuse-moi, Isabelle.
Juste une dernière chose, oui. C'est que ça ouvre aussi à la spiritualité. Voilà, c'est ce que je voulais terminer là-dessus parce que c'est très important.
Alors, moi, j'ai des réactions d'auditeurs.
Vas-y.
Oui. Michel D. Ces pseudo-extraterrestres seraient en réalité de mauvais anges démoniaques, pieds de nez aux saintes apparitions reconnues par la Sainte Église. Que rien ne nous trouble, Dieu seul suffit. Prions, prions, inlassablement, la Sainte Trinité et la Sainte Famille, Saint Michel Archange, un fou dangereux en liberté, surveillé. Un autre auditeur...
J'aurais envie de répondre à celle-là parce que c'est très intéressant, justement.
Oui, oui, vas-y.
Continuez les...
Oui, oui,
c'est-à-dire, mais... ce qui se passe, c'est que bien souvent, il arrive que des gens, même pas croyants, eh bien, quand ils sont face à quelque chose comme ça, se mettent effectivement à prier la Vierge ou à prier Jésus, etc. Et quelquefois, enfin, quand je dis quelquefois, il arrive que la situation s'arrête brutalement, se termine. Et ça, vraiment, on en a eu des expériences, des gens qui nous l'ont dit. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de mauvais anges, etc., mais il semble que le fait de prier donne une protection. Donne une protection. C'est pour ça que je parlais aussi de spiritualité. Alors, par contre, alors, en ce qui concerne... Oui, juste je termine parce que quand même, je me suis penchée sur cette question-là en discutant avec...
Il nous reste très peu de temps.
En discutant avec des prêtres, eh bien, on voit qu'au Vatican, il y a parmi l'observatoire des gens qui s'intéressent, enfin qui sont les tenants de l'observatoire du Vatican, disent qu'il peut y avoir des extraterrestres. C'est-à-dire que l'hypothèse est admise même par l'Église et que Dieu n'a pas forcément fait juste la Terre avec les humains, que son pouvoir évidemment est bien plus large et que ce ne serait pas étonnant qu'il y ait d'autres sortes. Sans que ce soit forcément des démons.
Alors, merci. Il nous reste 4 minutes. Un auditeur, David M., encore grand merci pour votre présence. Simple remarque, il est bien dommage qu'il n'y ait pas de texte de vos chroniques sur le site de Radio Courtoisie. Mais, cher auditeur, vaut mieux m'entendre que de me lire. Merci, je suis très touché. J'ai encore deux interventions. Bonjour, d'étant carrément curieux, c'est Yvette B. Je vous écoute avec sympathie et curiosité. Je voudrais vous poser une question qui ne relève pas d'une quelconque condamnation, mais seulement d'un désir d'en savoir plus. Parmi toutes les personnes qui sont approchées, dites-vous, ont-elles une religion ? Ben, on vient d'en parler à l'instant en partie, et lesquels de ces calculs ont été faits dans ce domaine ? Je crois que Isabelle de Cochecco vient de vous répondre indirectement. Et encore une intervention d'un auditeur. intervention en direct de Manuel. Au Portugal, en 2012, vers 22h, assis sur une terrasse de café, au moins 30 personnes et moi-même avons été visités par un ovni. Cela s'est produit dans un tout petit village. Une espèce de cône de lumière ressemblant à une loupe nous observait puis est repartie au bout de 3 minutes. Nous étions tous sans voix après cet événement. Merci pour votre émission. Merci, cher auditeur. Donc, c'est Manuel. Voilà. Je regarde si je n'ai pas d'autres courriels, car malheureusement, nous travaillons à distance. Et donc, merci Aline de m'envoyer la technique, les messages de nos auditeurs. Il me reste 3 minutes. 2 minutes.
Voilà. Et je rajouterai que nous avons aussi des abductés musulmans aussi, donc des gens qui ont une autre religion que la religion catholique.
Voilà. Alors, dernière question, en 1 minute, si quelqu'un, là c'est un auditeur qui me demande, où peut-on contacter le CERO?
Sur le site internet www.cero-france.com. Voilà.
Alors,
cero-france.com. Et il suffit de chercher le mot CERO plus loin France, CERO France, et normalement les gens trouveront le site internet. Et sur le site internet, il y a l'adresse mail qui est indiquée en première page pour nous écrire. Voilà.
Merci, chère Myriam Belmire.
Merci à vous. Merci, Nicolas.
Alors,
et merci.
Il va y avoir au mois de août une réunion où il y aura, je crois que c'est dans la région de Montpellier, une réunion, mais je crois que tout est plein parce que nous avons le Covid et des jauges, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Chers auditeurs, je remercie et je pense que vous avez été intéressés par Myriam Belmire, présidente du CERO, et d'Isabelle de Cochecau, vice-présidente du CERO, hypnothérapeute, de vous avoir expliqué et raconté ces rencontres extraterrestres avec ces témoignages d'expérienceurs français. Chers auditeurs, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal des collectionneurs, dirigé par Nicolas Tycho-Brazoff, assisté de Catherine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 22 juillet 2021, de midi à 13h30, et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.